Hyper rural.
Des récits de vie,
de la montagne
limousine.
Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de Mille Vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens. Parce que, au-delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon. Une plateforme de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles. Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté et de suivre de très près mon travail, les dessous de la création de ce podcast, de mes films documentaires et même d'une série à venir, d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus, alors abonne-toi à patreon.com/Laetitia Carton. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Mado. Cet entretien, comme beaucoup d'autres, je l'ai enregistré il y a longtemps. Et celui-ci, c'était même pendant le confinement. Mado, elle habite au cœur du bourg, derrière la pharmacie. Pour moi, c'est une des mémoires de faux. J'aime sa gouaille, sa gaieté, toutes les histoires qu'elle raconte. Et puis, elle a un cœur gros comme ça. Je la croisais souvent avant à l'auberge de la Feuillade, où elle se retrouvait avec ses copines pour prendre un petit repas, boire un petit canon. Ces derniers mois, on la voit moins, Mado. Elle a 89 ans et elle est très fatiguée.
Voilà.
Avec le masque.
Entre mon casque et le masque.
Je suis tout. Tu peux le retirer. Retire ton masque.
C'est vrai?
Oui.
Ah,
c'est beaucoup plus simple.
Tu sais, j'ai vu.
C'est Lydia qui est.
Personne, c'est ton.
Lydia, elle est toujours en train de me protéger de. Tu sais, de.
C'est ça. Mais c'est normal, elle s'inquiète. Elle veut garder sa maman le plus longtemps possible. Je prends mes petites notes. Je t'ai préparé plein de questions. En fait, mon envie, c'est vraiment de faire le portrait des gens, de prendre le temps de discuter.
Oui.
Parce que je trouve qu'à notre époque, on n'arrive plus à prendre le temps de discuter
de
avec
parler,
les gens.
Non, c'est vrai. Oui, c'est exact.
Alors
quand on est toujours,
moi,
toujours occupé avec des appareils, les gens ne se parlent plus.
Derrière des écrans.
Tout le monde est sur son téléphone.
Ouais.
Hein, c'est terrible de voir les gens. Moi, c'est au restaurant, là, pas ici, hein, mais comme je suis à Paris,
ouais.
Je vais beaucoup au restaurant, même toute seule. Mais je vois des couples qui ne se parlent pas, qui ne se parlent pas pendant tout le repas. Le seul contact qu'ils ont, c'est quelquefois avec leur téléphone portable. Et tout se passe comme ça.
Et ils se montrent le téléphone, c'est ça ?
Oui, sur le téléphone, toujours. On envoie des SMS, on répond, et puis les gens ne se disent rien. Voilà. C'est terrible.
Bon, nous, ici, on essaie de ne pas vivre comme ça.
On va essayer de se parler.
Ah, voilà.
D'accord.
Mon envie, c'est un peu que les gens ils me racontent leur vie. Et toi, j'adore t'écouter quand tu me racontes des choses. Mais
que veux-tu que je te raconte ?
Je sais qu'on a souvent parlé de la vie ici à Faux, tout ça, mais j'aimerais bien que tu me parles plus de toi aujourd'hui. Et déjà, est-ce que tu peux me raconter sous quel président de la République t'es né, tu te souviens?
Oh, j'en sais absolument rien. Alors là, le président de la République, je ne savais même pas. En 34, je ne savais même pas qui c'était. Et jusqu'à la guerre, je ne m'en suis vraiment pas inquiétée. Hein.
Ouais.
Jusqu'au moment de la guerre, j'ai commencé à savoir qui était au gouvernement quand j'ai envoyé au maréchal Pétain. Parce que figure-toi qu'à l'école, on nous faisait dessiner notre maison pour envoyer la maison à ce cher maréchal.
Pour son anniversaire.
Oh, je ne sais pas si c'était pour l'anniversaire, je me très bien que j'ai dessiné la mairie là-haut pour lui envoyer, avec mille regrets, par la suite, quand j'ai compris. Mais c'était un peu tard, quoi. Voilà, puis tu sais, j'ai fait toute la guerre, j'étais gamine. Hein.
Donc toi, t'es née en 34.
Je suis née en 34, oui. Alors tu vois, déclaration de la guerre, quoi, j'avais 5 ans. Hein.
T'es née ici à Faux-la-Montagne.
Ah, je suis née à Faux, oui.
Dans quelle maison?
À la mairie.
Ah oui, c'est vrai.
C'était l'hôtel des voyageurs. Il y avait 3 ou 4 bus qui s'arrêtaient par jour. Et c'était l'hôtel des voyageurs, voilà.
C'est que tes parents, ils tenaient un hôtel.
Oui, mon père avait une petite ferme à côté, tu vois. Parce que beaucoup, ici, tout le monde avait 1 ou 2 vaches, 4-5 vaches, ça dépendait. Et donc, il y avait l'hôtel, restaurant, tabac et la ferme. Tout était d'un seul tenant.
Et tu avais des frères et sœurs?
J'avais une sœur, mais qui était beaucoup plus âgée que moi. Elle avait 21 ans de plus que moi, donc ce n'était pas une sœur.
T'étais une enfant de la quarantaine?
Oui. Je suis de la dernière chance.
Et alors, quand tu repenses à ton enfance à Faux-la-Montagne, qu'est-ce que ça t'évoque?
La liberté, une enfance heureuse pour les enfants. On faisait des cache-cache, mais des vrais, pas des cache-cache comme ça dans un petit coin de la maison. D'une ferme à l'autre, tu vois, d'une grange à l'autre. Là, c'était des vrais cache-cache. Ici, on entendait beaucoup les cris des enfants à la sortie de l'école qu'on n'entend plus maintenant.
On les entend à la récré.
À la récré, mais il n'y a plus d'enfants qui jouent dans les rues. Ça n'existe plus, ça. Ils n'ont pas la liberté. Il faut toujours que les parents sachent où sont les enfants, nous, les enfants. Tu sais, on ne s'occupait pas tellement de nous.
Ils sont pas mal dans la forêt, en fait, ici.
Oui.
Tu vois, les enfants au HLM, ils sont dans la forêt toute la
journée. Dans la forêt, ils s'amusent donc, tu vois.
Ouais, mais très pas bien. Dans les rues, c'est vrai qu'ils sont pas dans les rues.
Alors nous, on faisait des grands jeux de cache-cache, Et puis après, dès qu'on était en âge, aussi, on allait garder les vaches, parce qu'on nous mettait au travail. On ne nous faisait pas tourner les pouces, en sortant de l'école.
À quel âge t'as commencé à aller garder les vaches?
Oh, peut-être, je sais pas, 9 ans, 9-10 ans.
Et t'y allais toute seule ou avec d'autres enfants?
J'y allais quelquefois toute seule, mais souvent les gosses venaient me rejoindre, et puis il y avait d'autres gosses pas loin, aussi, qui gardaient les vaches aussi. De toute façon, ici, les rues étaient sales, les rues étaient très sales, elles étaient pleines de bouses de vaches. Parce que tout le monde avait des vaches, et alors les vaches du bas, elles montaient dans des prés en haut, et les vaches du haut, elles descendaient dans des prés en bas. Alors écoute, donc les vaches, au moment du regain, elles avaient de l'herbe verte, elles faisaient des grosses bouses par terre. Et alors là, alors il fallait faire attention parce que les troupeaux, c'est le troupeau les vaches ne se connaissaient pas. Donc il fallait faire très attention parce que sinon elles se battaient.
Puis j'imagine que c'est pas du tout les mêmes odeurs qu'aujourd'hui alors.
Pas du tout, on était dans l'odeur du fumier, mais on s'y habituait. Partout il y avait des tas de fumier. À côté de l'écurie, il y avait un tas de fumier.
Mais il y avait combien de fermes dans le bourg, à peu près?
7-8, peut-être. Mais pas des grosses fermes. Là-haut, l'hôtel, l'anciennement Constanti, il y avait aussi des vaches. L'hôtel Bouteille, il y avait des vaches. Tout le monde avait des vaches.
C'est-à-dire qu'il y avait des hôtels, mais les hôtels avaient aussi une petite ferme. Toutes, c'était pas seulement tes parents sur ce
hôtel-là. C'était tout le monde était comme ça. Et il y avait même des femmes seules qui avaient une chèvre, tu vois. Elles vivaient de son lait de chèvre, de ses fromages, de quelques poules, voilà. Tout le monde avait quelque chose à côté. Les femmes, à cette époque-là, il n'y avait pas de retraite, même. Je ne pense pas que la retraite soit à... Non, moi, je pense pas que mes parents touchaient une retraite. Donc, tout le monde s'est débrouillé. Même les personnes qui n'avaient pas de terrain, les vaches, les chèvres, elles les faisaient brouter le long du fossé. Les attachaient avec un pieu. Voilà. C'était sympa. Toutes les femmes qui allaient se promener, eh bien, à l'automne, elles revenaient avec un fagot. Elles revenaient jamais les mains vides. On portait un fagot pour allumer le feu. Tu vois, des choses toutes simples.
Ouais, moi j'ai toujours eu ma grand-mère à faire des fagots.
Elle a toujours fait des fagots, ta grand-mère. Tu vois. Ouais. Il n'y avait pas de jeûner dans les champs comme maintenant, parce que à l'automne, les paysans, ils coupaient les jeûners, ils les faisaient sécher, et ils les ramenaient dans des grands tombereaux, dans des tombereaux, pour allumer le feu tout l'hiver.
Ah oui, ils allumaient au jeûner.
Ah, au jeûner, oui, oui.
Thank you.
bars. À un moment, quelqu'un m'a dit qu'il y avait 20, une vingtaine de bars.
À peu près 18-20, il y en avait, parce que ça a été fluctuant. Mais c'est ça, quand moi j'étais gamine, il y avait bien 18 à 20 bars. Bistrots, on n'appelait pas des bars. Ouais. Des bistrots, s'il te plaît, c'est tout à fait différent.
C'est pas pareil.
Mmh.
Ça, on n'arrive pas à l'imaginer aujourd'hui.
Les hommes buvaient, se rencontraient, buvaient un canon, comme on disait, un canon, et puis jouaient aux cartes, quelques-uns.
Mais les femmes étaient admises dans ces bistrots ?
Mais les femmes n'y allaient pas. Elles étaient admises, mais elles n'y allaient pas. Il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup.
J'allais
au restaurant quelquefois, bien sûr, avec les. Mais c'était surtout des hommes. Ah oui, dis donc, attends, c'était pas la révolution encore. Bah, tu sais, on a eu le droit que le vote en 45, je crois que c'est en 45. Ouais. Et il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas de, compte en banque. Ben, les hommes non plus, ils n'avaient pas de compte en banque. Ici, ils n'avaient pas de compte en banque. Il n'y avait que les commerçants, sinon, voilà, les autres n'avaient pas. Mais les hommes étaient payés avec de l'argent liquide, donc, dans la poche. Et la poche au bistrot, au tabac, au bistrot. Voilà, c'était comme ça.
Et alors, donc, tu disais tout à l'heure que tu avais 5-6 ans quand la guerre a été déclarée.
Oui.
Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta vie, cette période de la guerre ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'hommes d'ici qui ont été mobilisés, qui sont partis. Comme dans 14, les femmes, elles ont repris un petit peu le pouvoir pendant quelques temps, mais ça a été assez rapide. Mais il y en a qui ont été prisonniers aussi. J'avais un prisonnier aussi dans ma famille. Mais oui, c'était la guerre, c'était ça, quoi. Puis on a eu quand même des visites d'Allemands ici, quelquefois, qui ont été assez sévères, parce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés et déportés.
Tu as été témoin de ça ou tu as entendu raconter ?
On a été témoin de ça, oui. On a été témoin, tous les gosses ont été témoins de ça. Parce que c'était entre... Les Allemands sont arrivés... pendant l'heure du déjeuner, après le déjeuner. Et moi, j'ai le souvenir, j'étais partie avec une petite camarade ramasser des violettes sur un talus pour offrir à notre instituteur ou notre institutrice, je ne me souviens plus qui c'était. Et on avait fait des petits bouquets, et quand on est arrivé au milieu du convoi allemand qui s'était arrêté. Et les Allemands sortaient des camions pour se mettre à la poursuite de soi-disant... ils auraient vu un... Parce qu'il y avait moins d'arbres que maintenant, moins de forêts. Et ils ont aperçu une personne avec une mitraillette, enfin une arme dans la poche. Mais c'était pas une arme, c'était une bouteille de limonade ou de vin qui brillait au soleil. Voilà. Et c'était derrière.
Et ça, il s'adressait aux gens en français. Ça, tu l'as compris plus tard, toute
cette. On l'a compris plus tard.
Hein.
Oui. Puis il y a des gens ici qui comprenaient l'allemand aussi. Parce qu'il y avait des réfugiés aussi. Les réfugiés juifs et qui parlaient l'yiddish beaucoup, donc ils parlaient l'allemand.
Il y avait beaucoup de réfugiés ici.
Oui, il y en avait.
Mais tu m'avais raconté cette histoire magnifique du monsieur qui avait été hébergé et qui revient encore tous les ans.
Oui, tous les ans, mais malheureusement, j'ai plus de nouvelles de lui. Je pense qu'il est décédé. Voilà. En face de chez nous, il y avait aussi deux couples. Il y en avait beaucoup.
Ce jour-là, les Allemands.
Mais ils n'ont pas arrêté ce jour-là de réfugiés. Et ils ont. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui étaient repartis à ce moment-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont repartis en 1942, quand la ligne de démarcation, ils sont descendus un peu plus bas. Et puis. Non, mais là, la famille Lévy sont restés toute la guerre, et les enfants n'ont jamais oublié, ils sont toujours revenus. Oui. Maintenant, les enfants, ce sont des vieux de 80 ans, passés, même plus. 90 ans, je pense qu'il avait... Voilà.
Bravo, raconte-moi, j'adore la fin de la guerre.
La fin de la guerre, c'était un jour mémorable. Justement, Le fils, là, le fils qui était étudiant, le fils de ces déportés qui étaient des étudiants, en 44, quand il y a eu les Allemands sont partis du pays, il a pu rejoindre le lycée à Limoges. Hein, parce que avant, il faisait des études ici avec ses parents. Et le latin, comme vous voulez être docteur, le latin, il l'apprenait avec le curé de Gensoux, qui lui donnait des leçons de latin. Voilà. Donc en 44, il a pu rejoindre le lycée Gay-Lussac à Limoges jusqu'en 45. Il a fait une année là-bas. Et comme il y avait la libération, on lui a donné la liberté de repartir tout de suite sur Faux, hein, de rejoindre ses parents. Il est venu par le train. Ou c'était même pas le train, parce que comme le pont de Saint-Léonard avait... Pas Saint-Léonard, le pont de... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Avait sauté. Donc c'était un tram qui venait de Maléon jusqu'à Aimoutier. Donc il a pris ce tram. Et après, il a dû monter un petit peu à pied de Aimoutier jusqu'ici. Et quand il est arrivé à la fermerie, il a entendu une clameur et il m'a dit qu'il n'avait jamais oublié cette clameur. Il n'avait jamais entendu comme ça. Faux était en liesse. Faux était en liesse. Il n'y avait pas de musique, mais c'était les gens qui criaient, qui hurlaient, qui étaient heureux, qui étaient libérés. Et quand je vois on va libérer le plateau, j'ai envie de rigoler parce qu'on n'a jamais attendu les nouveaux d'ici pour libérer le plateau. Les gens se sont libérés eux-mêmes.
Les tags qui sont écrits sur les murs, quelquefois.
Oui, je trouve ça complètement idiot, excusez-moi, mais voilà. Libérer le plateau, la montagne, je ne sais plus quoi. Eh bien, on n'a pas attendu pour être libéré.
Tu avais quel âge ?
Moi, j'avais 8. Enfin, attends, qu'est-ce que j'avais 9, 2 ans, 11 ans en 44, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Et alors, la liesse affole la montagne. Les vaches devaient rester certainement dans les étables. Personne, enfin, tout le monde a oublié. Et puis, il a été dit que tout le monde, tous les bistrots de Faux mettaient la barrique sur la table et que la porte était ouverte et tout le monde allait tirer à la barrique. Et les gosses de Faux, de 10 ans, moi je te parle de ceux de 10 ans parce que je les connais bien, tous les copains de 10 ans, on a suivi. Et comme on nous a dit que le vin blanc, c'était le vin de femme à l'époque, les femmes buvaient du vin blanc, hein, c'était plus distingué, soi-disant, et tout le monde a pris un petit peu à la barrique. Hein. Les gosses, on n'a pas fait beaucoup de bistrot. Hein. Et alors, quand on se raconte toutes ces histoires de ce jour-là, tout le monde a terminé au lit, malade, il y en a qui sont restés 3 jours au lit. Oui, mais attends, il y avait autre chose, c'est qu'on tombait, on tombait, on tombait, et on tombait dans les bouses de vache. Alors je te dis pas, ça c'était très très, c'était marrant et odorant. Voilà, les histoires de la libération de Paris, pas de Paris, excuse-moi, la libération de la France, quoi.
De notre Paris.
Oui, 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 la fin de la guerre, la fin de la guerre, hein, c'était notre Paris à nous, oui. Voilà, j'ai de très bons souvenirs, et on se remémore toujours, tous les survivants se remémorent toujours cette journée-là.
Qu'il y a eu le retour.
Petit à petit, les soldats sont rentrés. Mais il y a les déportés, il n'y en a qu'un qui est rentré, le seul, le plus jeune qui a été déporté, celui qui avait la bouteille dans la poche,
il est revenu,
mais les autres ne sont pas revenus. Mmh. Ah. Malheureusement, je me souviens d'un monsieur qui est parti avec ses sabots en bois, hein, de paysan, il est parti, il n'est pas revenu non plus. Mmh. Ça, c'était des mauvais souvenirs. Hein. Ça, c'était... Oui, oui. Bon. Et après, on a eu droit aux prisonniers allemands. Des prisonnialement comme domestique.
Ah ouais.
Oui. Je ne sais pas si ça a duré une, 2 ou 3 ans, je ne sais pas exactement combien d'années ils sont restés. Et nous, chez nous, on en avait 2. Moi, je suis partie après au lycée en 40 et quelques années, 45. Et ils étaient encore là quand je suis partie en 45, ils étaient déjà là.
Et vous aviez quel lien avec ces gens ?
Bien, c'est-à-dire, on avait un SS avec nous. Ah, ils étaient marqués sous le bras, on pouvait le voir. Hein, il y avait le tatouage. Et puis un autre, certainement un brave paysan qui avait fait la guerre, peut-être contre son gré, enfin, bien en, voilà, et qui travaillait avec mon père, voilà, il est domestique d'ici.
Mais j'imagine que très vite l'humain reprenait le dessus et que c'était.
Et puis, tu sais, au départ, mon beau-frère qui était prisonnier de guerre pendant 4 ans, il était un petit peu dur avec eux, enfin, dur, exigeant. Et puis petit à petit, tu sais, ça s'est... Il y en avait, le SS, justement, c'était un garçon très doué en dessin. Il a fait nos portraits. Hein, il faisait nos portraits, d'après photo. Et puis, voilà, tu vois, c'était arrivé. On ne savait même plus après, à la fin, que c'était des prisonniers. On s'était habitués à eux, hein, voilà.
Et ils sont partis quand même, ils n'ont pas fait...
Mais moi, j'étais plus là quand ils sont partis. Ouais. Hein, j'étais plus là. J'étais pensionnaire à ce moment-là.
Alors, voilà. T'es partie où ?
J'étais partie à Limoges, moi.
En quelle classe ?
Ah ben, c'était en 6e.
À cette époque, il fallait partir quand on voulait faire des études, même le collège, il fallait
partir.
Ah
oui, oui, bien sûr, il fallait partir. Il fallait partir. On passait pas le certificat d'études, à 12 ans, on partait. Il fallait passer un examen pour entrer en 6e.
Donc, t'es restée en internat tout collège et lycée ?
Oui, il n'y avait pas collège-lycée, c'était lycée.
C'était le lycée, mais dès la 6e.
Dès la 6e, c'était le lycée, oui, il n'y avait pas de collège. Le collège, je pense que c'est, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, mais moi, pour moi, c'était le lycée.
Voilà. Et tu rentrais les week-ends ?
Ah, tu rigoles, rentrais tous les 3 mois. Bah oui, le week-end, tous les 3 mois.
Mais c'était pas difficile, ça, à 12 ans ?
Mais oui. Oui, oui, on rentrait tous les 3 mois. Et on partait en internat, on nous fournissait le lit en fer, sans le matelas. Il fallait amener le matelas, les couvertures, tout. C'était la fin de la guerre.
Ouais.
Voilà.
La fin de la guerre.
Il fallait un uniforme. Et un manteau bleu, c'était pas évident de trouver un manteau bleu. D'ailleurs, il y avait des bons pour acheter des vêtements.
Parce que vous aviez encore l'uniforme.
Ah oui, il y a eu des bons très longtemps. Nous, ma mère a fait faire 2 manteaux avec une couverture de l'armée en déroute, qui avait bivouaqué dans la ferme. Et ils avaient oublié une couverture, et c'était notre couverture. Alors, elle n'était pas vraiment bleu marine, c'était le bleu de l'armée. Hein, le bleu de l'armée. Et comme il n'y avait pas... Il fallait faire 2 manteaux, puisque j'avais ma nièce qui partait avec moi. Et la couturière de Jansiou nous a envoyé un mot pour nous dire qu'il n'y avait pas assez de tissu pour faire les manches. Alors, nous sommes partis avec des manches en fourrure, c'est-à-dire en peau de lapin, gris, foncé. Ah, on avait un uniforme spécial. C'est pour ça que je retrouve la photo.
Ah, t'as la photo, toi ?
Je crois que je l'ai encore, tu te rends compte ? Oui, oui.
Et quel souvenir t'as gardé de ces années lycée ?
Horrible.
Ah.
Horrible. On mangeait mal.
Vraiment,
c'était
filles.
Horrible, c'était horrible.
C'était non mixte.
Ah, mais quoi ?
C'était non mixte.
Ah oui, bien sûr, non mixte. Là, là, là. Quelquefois, il y avait les étudiants garçons faisaient des monomes, ils montaient, ils essayaient de fracturer la porte. Et ça faisait des histoires incroyables. Mais enfin, bon, passons là-dessus. J'ai pas aimé, moi, ces années-là. Pas du tout, du tout. C'était d'arriver, rien à voir avec mon école de faux.
Ça a dû être un choc.
C'était
la
choc.
Seule de faux ?
Ah non, on était 3 de faux. Et dans le lycée, oui, oui. Non, c'était moche comme tout. Hein.
Et tu savais ce que tu voulais faire
non.
De ta vie ?
Non, je ne savais absolument pas. Et non, ça ne me plaisait pas. Tout ce que je entreprenais ne me plaisait pas. Non.
L'école, tu n'étais pas du tout scolaire?
Si, ah, si au départ, si, mais l'internat ne m'a pas plu du tout. Ouais. Non, 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 ça. J'ai fait des éruptions de boutons, ça n'allait pas du tout.
Tenir 7 ans
J'ai tenu jusqu'au brevet, puis après je suis partie,
à
j'ai pris l'école comptabilité, sténodactylo, et puis après je suis partie à Paris, voilà.
C'était ton choix, la sténodactylo?
Ah oui, ça c'était mon choix, hein. Sténodactylo c'était mon choix, oui. Oui.
À l'époque c'était un peu...
en général, les filles, c'était destiné à être dans un bureau, secrétaire. Il y avait encore des écoles, comment on appelait ça, des écoles pour les filles, pour leur apprendre à bien tenir la maison. C'était horrible, ça, quand même, quand on y pense. Comme ménagère, voilà. J'avais justement une de mes cousines qui était professeure là-dedans. Apprenez à bien vous tenir, à bien tenir, à bien faire attention. Oh, quelle horreur. Apprenez à faire le ménage. Apprenez, voilà ce qu'on proposait aux filles. Et quand je me suis mariée, on m'a bien donné un petit fascicule. Comment tenir mon ménage, hein? Et pourtant, je me suis mariée en 50, j'ai oublié les dates. 58 ou 59. À la mairie du 16e, je me suis mariée dans un beau quartier, et on m'a donné le petit fascicule, bien tenir son ménage, élever ses enfants, voilà. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre ton école de dactylo et ton mariage à Paris dans le 16e?
Je suis partie, et puis...
Et comment tu décides de partir à Paris, toi, petite faloise?
Oui. Ça, c'était un truc, je voulais partir, je voulais plus rester chez moi. Il y avait des problèmes à la maison... Et je voulais plus rester.
T'avais quel âge? C'est-à-dire après ton école?
J'avais 18 ans. À 18 ans, je suis partie. Ouais. 18 ans. J'avais posé l'ultimatum à mes parents. J'avais dit, on vit tous les trois, parce qu'on était avec ma sœur, son mari, les familles, toute la famille. Et moi, je pouvais plus supporter parce qu'il y avait des problèmes familiaux. Et je suis partie. Je dis, à la première occasion, je m'en irai. Je suis partie à la première occasion.
C'était voilà. Quoi cette occasion? Comment t'as fait?
Hein? Ah, ben, j'ai trouvé une bonne filière, je me suis trouvé, tu sais, ce qu'il y avait à Paris, c'est que tu arrivais le matin, tu allais au bureau de placement, ce qu'on appelait un bureau de placement, hein, c'était pas la NPE, et une heure après, tu étais dans une place.
Ah, une autre époque.
Tu vois? Tu comprends?
T'as trouvé quoi alors?
Eh ben, je suis rentrée dans une sténodactylo, hein, voilà. Et puis, je suis restée comme ça pendant des années, jusqu'au moment, c'était une fabrique de bas nylon. Et puis, bon, j'étais quand même assez dégourdie. Il y a eu des nouvelles machines qui sont rentrées pour faire des trucs, hein, pour traiter les bas. Et on m'a demandé si je voulais faire un essai, parce qu'il y avait un nouveau truc qui arrivait. Donc, moi, j'ai fait l'essai. Et puis, on m'a dit, ça vous plairait? Je dis, bien sûr, ça me plairait de faire marcher ça. Et on m'a dit, oh, ben, ça vous ferait une drôle d'augmentation de salaire. Moi, tu sais, il n'a pas fallu autre chose comme décider. Donc, je suis restée sur cette machine. Ah oui, c'était une machine qui chauffait des bas. On était à deux, on était très bien. J'étais avec une dame, moi j'avais 20 ans, elle avait 45 ans, on s'entendait très bien. Donc moi je suis restée 4 ans 5, ou 5 ans avec elle. Et puis c'était très bien, j'avais une belle vie, je me suis bien amusée. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais au TNP, j'ai vu tous les démarrages, la Palais de Chaillot, la Comédie Française, le théâtre de boulevard, je me suis régalée avec ça.
Mais alors comment toi, petite faloise qui vient de ta Creuse profonde, là, tu arrives à t'intéresser à tout ça. C'est quoi?
Mais parce que tu as envie de tout voir. Ouais. Tu as envie de tout voir. Écoute, tu t'imagines. J'avais bien été quelquefois au cinéma. Il y avait un cinéma sur la, au centre foire qui venait le jeudi. Après, quand j'étais à l'internat, j'avais le droit d'aller quelquefois au cinéma. Mais bon, c'était le cinéma à Limoges. Ça m'intéressait plus ou moins. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, je voulais tout voir. Tout voir. Et puis j'ai retrouvé beaucoup de copines d'ici aussi qui étaient parties. Et puis j'ai fait vraiment vite des copines et puis des copains. Et puis voilà, ça a été très, très... C'était très sympa à l'époque. Hein.
Ouais. Tu très, très sympa. Tu m'as raconté une fois que tu traversais tout Paris à 6h du matin.
Ah oui, ben, je ne sais pas.
Des balles, c'était quoi?
Non, j'allais danser avec des copines. On allait danser à l'Olympia. Il y avait une salle de danse au sous-sol. Hein. Et à ce moment-là, l'Olympia était beaucoup moins important que maintenant. Il y avait moins de place. Et puis, nous, on allait danser là. Et on dansait. Et le soir, enfin, jusqu'à la fin de la fermeture, alors on allait s'asseoir sur la place de l'Opéra. Parce qu'à l'époque, le grand café de la place de l'Opéra, il ne rentrait pas les chaises, il les empilait. Personne ne les volait, hein, tu vois. Donc on descendait les chaises, on s'asseyait, on se reposait un peu, on changeait de chaussures, et après, on rentrait jusqu'à la porte Champéré, à la limite Levallois-Porte Champéré, à pied. Alors, bien sûr, ce n'était pas des chaussures à talons, près des ballerines. Et alors, comme dans notre sac, il n'y avait que la place d'une chaussure, on partait avec l'autre chaussure à la main. Et on partait de Saint-Lazare, on remontait Courcelles, Villiers, puis on arrivait. Et voilà, on arrivait juste pour prendre, pour se laver. On n'avait pas de douche à l'époque à la maison. On se lavait. Là, j'allais coucher chez une copine. Et puis après, chacune, elle partait au travail. Voilà, c'était la belle vie.
T'habitais en colocation, tu faisais comment?
Ah non, moi non, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'hôtels meublés qui permettaient d'avoir pour les personnes seules, tu avais une chambre. Voilà, c'était très sympa, c'était fermé, tu n'avais pas le droit de recevoir quelqu'un, mais c'était un hôtel meublé, c'était bien.
Mmh. Mmh. Et alors, où est-ce que tu as
j'habitais dans le 17e.
Ah oui. Mmh. Et où est-ce que tu as rencontré ton mari?
Devine.
Au bal de l'Olympia.
Au bal de l'Olympia. Et voilà comment on s'est rencontrés. Voilà. Et puis,
c'était un danseur?
Non, pas du tout. Il était là par hasard. Hein, il était là par hasard. Moi, je venais très souvent quand même. Tous les vendredis soirs et les samedis soirs. On n'allait pas le dimanche, mais les vendredis soirs et les samedis soirs. Quand on était assez riches aussi, hein, il fallait payer l'entrée. Hein.
C'était combien l'entrée?
Oh, je ne me souviens pas, tu sais.
C'était accessible ou pas?
Et comme je mettais tout mon argent dans les chaussures, oui, c'était quand même accessible. Oui, ouais. Oui.
Vous dansiez quoi?
Ah, on dansait, bien sûr. C'était pas un orchestre... C'était la mode des orchestres sud-américains. Oui. Tout ce qu'on entend maintenant sud-américain, on a dansé
salsa,
là-dessus.
Samba,
passo, voilà, il y avait des vals. Il y avait toujours deux orchestres. Il y avait l'orchestre sud-américain et l'orchestre pour te faire danser des valses, voilà, des trucs comme ça, tango. Et tu pouvais aller danser, laisser ton sac à main sur la table, personne ne te le chipait. Tu vois? Et c'est pour ça que maintenant, on ne comprend pas... Et franchement, on se promenait sur les boulevards. C'était la mode, c'était beaucoup le boulevard des Italiens, qui maintenant sont complètement tombés. Hein. C'est complètement l'opéra italien. C'est complètement tombé. Ben, on se promenait. Alors dès qu'on était un petit peu accosté, on faisait comme ça. Et puis ça y est, on était tranquille. Ben, il y en a une qui mettait la langue comme ça, l'autre. On disait pas qu'il fichait-nous la paix, et on se retournait, on faisait une espèce de grimace. On était tranquille.
Ouais, en fait, t'as connu le Paris des années 50. Quoi.
Paris fou, c'était sympa, très sympa. Très, très sympa. On allait au spectacle, on allait voir tout, Brel, Piaf, Beko qui ont cassé les... Enfin, moi, je cassais pas les fauteuils.
Mais en fait, ça veut dire qu'avec ton salaire de... Donc en fait, tu travaillais...
Oui, avec mon salaire, ça suffisait, oui.
Tu pouvais te payer tout ça à
l'époque. Oui. Ah mais attends, quand on allait au théâtre, il faut pas croire, à part le TNP qui était abordable, hein. C'était le théâtre de Chaillot, c'était très abordable, on payait un abonnement, et on pouvait... Il y avait un self, et tu côtoyais tout le monde, tous les artistes qui étaient là. Hein, c'était tout à fait différent. Hein. C'est maintenant, ils sont plus abordables. Il y avait Gérard Philippe, il y avait tous les... Comment ça, j'ai oublié les noms, j'oublie un peu les noms maintenant. Mais c'était abordable. Et quand on allait au théâtre de boulevard, on allait au dernier étage. Hein. On n'allait pas... c'était pour ainsi dire donné. Et je me souviens que même il y avait un théâtre sur les boulevards où tu étais accoudé. Mais tu n'étais pas assise. Mais comme on s'en fichait, on voyait des acteurs, on voyait quelque chose de nouveau, c'était nouveau. Hein?
Tu t'es mariée?
Oui.
Vite?
Non, parce que je me suis mariée, je devais avoir 24 ans, donc 18 à 24 ans, c'est pas mal quand même, j'en ai profité 6 ans. Hein.
Parce qu'après, t'en as plus profité?
Pardon? Ah, c'est plus pareil, c'est plus la même vie, j'ai plus la même vie. D'abord, il faut faire avec les... Mon mari était sportif. Moi, je n'étais pas du tout. Donc, j'ai changé un petit peu. C'était différent. Ça a été différent, tout à fait différent.
Et tu as eu des enfants très vite?
Oui, j'ai eu ma fille, Lydia. Et puis, non, après 5 ans après, j'ai eu Muriel. Oui, voilà. Oui. Parce que je ne voulais pas d'enfants au-delà de 30 ans. J'avais été une gosse de vieux. Je ne voulais pas être une maman avec des enfants trop vieilles.
Ouais.
Ah non, ça... Pour moi, mes parents, c'est plus des grands-parents que des parents.
Ouais.
Ah ça, non, il faut pas faire des enfants trop vieux.
Mais parce qu'aussi, à l'époque, tes parents qui avaient
50 ans... Oui, tandis que maintenant, les femmes de 40 ans sont jeunes.
Mais à 40, les femmes de 50 ans...
Oui, mais à 40 ans, non. Oui, tu comprends. Mais voilà, la vie a changé, c'est plus du tout pareil.
Ouais. Et t'es restée dans ton usine de bas?
Ah, ne, après, non, je me suis arrêtée de travailler, j'ai élevé mes filles, je suis restée à la maison.
Vous aviez assez avec le salaire de ton mari?
Oui, mon mari avait une bonne situation, oui, j'avais assez avec lui.
Et ça t'a plu, cette vie?
Un certain temps. Un certain temps. Et après, je me suis dit, je m'ennuie. Je m'ennuie à attendre que tout le monde rentre, que le mari a envie de parler le soir, que je sois fatiguée. Et puis j'ai vu, en emmenant mes enfants à l'école, j'ai vu une annonce pour au mois de décembre, c'était le 30 novembre, cherche une personne pour un mois, un remplacement pour une demi-journée, pour des demi-journées. Alors je me suis présentée, juste à côté de chez moi, donc pas de métro à prendre. On m'a dit oh oui, avec plaisir. Donc j'ai fait un mois. J'ai dit tiens, ça va me faire un petit peu pécule pour faire des cadeaux aux enfants, tu vois. Et puis on m'a dit oh, si vous voulez, ça nous arrangerait bien. La personne qui est partie en Allemagne faire un stage ne revient pas. Est-ce que vous pourriez rester? J'ai dit oui, un petit peu.
C'était quoi comme travail?
C'était dans un journal. C'était aux abonnements. Je me suis dit, pourquoi pas, ça me plaisait bien. Puis j'étais contente d'avoir des compagnons, des compagnes de travail. Il y avait une très bonne ambiance à ce moment-là dans l'imprimerie, c'était très sympa. Et on m'a dit, j'ai dit, je veux bien rester jusqu'à Pâques. Parce qu'à Pâques, moi, je reprenais 15 jours pour emmener mes enfants à Faux, en vacances. Et on m'a dit, bon, d'accord. Alors on m'a dit, vous revenez après Pâques. Je reviens après Pâques. Et arrive le mois de juillet, moi, je reprenais ma valise pour revenir avec les enfants à Faux. On m'a dit, bon, ben, vous repartez, prenez 2 mois. Et elle dit, vous reverrez quand vous rentrerez, vous rentrerez au mois de septembre, vous reverrez. Je suis revenue au mois de septembre, on m'a dit, non, on vous garde. Bon, et puis moi, j'étais bien contente parce que les après-midi, je partais à 2h et je rentrais à 6h. J'étais très bien. À côté de chez moi, c'était très bien. Et puis petit à petit, on m'a commencé à me dire, ben oui, ça fait un petit peu trop de vacances. Mais là, dans l'imprimerie, déjà, on avait 6 semaines de vacances, quand les autres n'en avaient que 4. Hein. On avait de très gros avantages. Alors, on faisait des stages, des journées de 4 heures. Et si on faisait dire l'imprimerie, attendez, hein. Si on faisait une demi-heure de plus, on était payé 8 heures. Ah oui, franchement, je peux faire un effort.
Hein. Il y avait des syndicats très présents.
Oh oui, bien sûr. Hein. C'était un syndicat, c'était très très fort à ce moment-là. Et il y a certaines... quand vous vouliez rentrer à l'NMPP ou certaines imprimeries, si vous n'étiez pas... si vous preniez pas comment... certains syndicats, vous n'y rentriez pas. Il fallait être syndiqué. Moi, là, dans mon petite imprimerie familiale, on ne demandait pas de syndicat.
Mais c'est qu'ils devaient beaucoup t'apprécier pour te laisser toutes ces vacances.
Certainement, parce qu'ils ne m'auraient pas, fait tous ces trucs-là. Mais enfin, petit à petit, je suis revenue à 6 semaines de vacances. Mais quand je voulais m'absenter une semaine, on me le donnait bien aussi. Mais enfin, j'étais très bien comme ça. Je suis restée 20 ans.
Ah oui.
Mais malheureusement, l'entreprise avait été vendue à une autre grosse société. Et alors là, tout a changé, tu sais. Alors, ça a été des grosses machines, des trucs incroyables. Oh là là, ça s'était devenu très fatigant, très, très fatigant.
Ça, au bout de 20 ans.
Dans
les années 80
oui, oui, dans les années 80-85 à peu près, oui.
Et donc, tu avais gardé quand même ce lien très fort avec Faux-la-Montagne. Tu revenais toutes les vacances, tu passais
oui,
tous les
parce que j'ai un mari qui a adoré Faux. Donc, comme il aimait Faux et qu'il avait beaucoup de copains et de copines ici, on revenait. On avait un grand cercle de copains et on était toujours les uns avec les autres. Donc, c'était que des filles de Faux qui avaient épousé des hommes d'ailleurs et que ces hommes d'ailleurs, ils aimaient Faux. On a eu de la chance, hein.
Ouais.
Voilà. Et on est restés toujours très amis jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, j'ai encore Colette que tu connais certainement. Voilà. Elle a perdu son mari, mais avec Colette, on est toujours très, très soudés. Hein.
Ouais.
C'est comme une sœur.
Ouais. Vous étiez à l'école ensemble
elle était à Paris déjà.
Ah,
elle est venue juste pendant la guerre. Elle est venue pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, les enfants de Paris et de sa région, on les a beaucoup envoyés à la campagne.
Ouais.
Parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements et on les a envoyés pour plus de sécurité. Et puis aussi, il y avait aussi pas beaucoup à manger non plus en ville. Donc ici, il y avait toujours, hein,
ouais.
On trouvait toujours.
Et tu avais la maison de tes parents ?
Ici, oui.
Quand tu revenais ici pendant les vacances ?
C'est cette maison-là ?
Ah, c'était celle-ci ?
Oui, oui, cette
ils
maison de mes parents.
Ils étaient plus à la mairie,
oui, oui.
Finalement ?
Non, 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 parce qu'après, ils ont pris là où il y a la pharmacie, c'était le restaurant, hôtel-restaurant.
Ah oui, tu m'avais dit qu'il y avait un arbre devant, tu m'avais
oui.
montré des photos.
Oui, oui.
Je regrette cet arbre.
Oui, oui. Et mon père avait la ferme qui était à côté, tu vois. Donc, il y avait encore des tas... Là, partout, il y avait des tas de fumier. Parce qu'ici, il y avait 2 fermes derrière la rue derrière, là, tu vois. C'était 2 tas de fumier. Alors, les tas de fumier, tu vois, il y a juste à côté, il y a le purin qui tombe.
Donc, tu revenais en vacances chez tes parents ?
Oui, je revenais, j'allais ailleurs aussi, hein, j'ai eu une autre vie, mais moi, à partir des années 70, on est revenu beaucoup ici. Mais on allait toujours en vacances ailleurs, mais on revenait quand même à Faux.
C'est Lydia qui est rentrée.
C'est Lydia qui est rentrée, ouais. Elle n'a pas entendu, oui.
Elle ne fait pas de bruit pour pas qu'on l'entende. Et quand tu as été licenciée?
Ah, j'ai pas été licenciée. Enfin, j'ai demandé à partir parce que j'en pouvais plus là.
À cause des nouvelles machines.
Oui, et... c'était trop difficile. D'ailleurs, on m'avait voulu me donner. Ils ont voulu pas me lâcher encore. Ils ont voulu me donner un autre travail, mais il fallait que je prenne le métro pour y aller. Et puis, non, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, licenciez-moi, ça suffit. J'en ai assez, quoi. Il arrive un moment, j'en ai assez du travail.
après ?
Eh bien, je suis là, tu vois, je viens à fond, maintenant. Je fais 6 mois d'un côté, 6 mois, enfin à peu près 5 mois, 7 mois d'un côté ou de l'autre.
Depuis la retraite ?
Oui, ouais. Depuis la retraite. On retrouve, on aime bien revenir à Faux. Faux, c'est chez moi. Et puis, de toute façon, tu sais, à Paris, je ne peux plus rien faire. Alors, Paris était intéressant pour moi que si j'allais au cinéma, au théâtre, que je sortais beaucoup. Mais non, je ne peux plus monter dans l'autobus, je ne peux plus prendre le métro. Donc, je suis bien mieux à Faux. Bien mieux à Faux. On retrouve les amis, celles qui restent. Et puis, voilà. Et Lydia adore Faux.
Tu disais un truc l'autre jour. On revient toujours là où on est né, non, tu avais une expression.
C'est plus oui, c'est vrai. Mmh. On est très attachés. Hein, mmh. Très, très attachés.
Il y a toujours des liens.
Oui.
Mmh. Ouais. Et c'est quoi pour toi, Mado, la vie ?
La vie ? Ben, il faut écouter la vie. Il y a des choses. Il faut essayer. Il faut essayer. De toujours voir le côté positif. Il faut essayer. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a eu des moments très difficiles dans ma vie. Mais j'essaye. Et puis plus en vieillissant, plus je vois le côté positif.
C'est vrai.
Oui, oui. J'essaye.
Tu penses qu'on... Est-ce que tu te racontes des histoires sur le sens que ça a, nous, ces humains, sur la planète qui tourne comme ça dans le système solaire ? Ça a quel sens pour toi ? Ça en a un ?
Non, je me pose pas de ces questions. Pas du tout. Et puis, comment te dire ? Non, en ce moment, je pense plus à rien. Je veux même plus écouter les informations. Si, quand même, je m'intéresse quand même à certains problèmes de la planète, quand même. Le réchauffement, j'y pense pas. Non, je dirais, puis tu sais, peut-être que dans 10 minutes, je penserai autrement, je te dirai autrement.
Tu sais, moi, je pense à ça ici, tous les soirs. Ce que je trouve merveilleux ici, c'est le ciel.
Le ciel ?
Le ciel, il est quand même merveilleux ici. On voit toutes les étoiles.
Oui, c'est merveilleux tout ça. Mais tu sais, voilà, il y a quelques années, je m'intéressais beaucoup, je ne m'intéresse plus à tout ça. Non, 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 maintenant, je suis assez terre à terre maintenant.
Tu ne poses pas de questions métaphysiques.
Tu sais, avec l'âge, on change beaucoup. Change beaucoup, oui, oui, oui.
Et c'est quoi, toi, tes besoins fondamentaux ? De quoi tu pourrais ne pas te passer ? De quoi tu as besoin ?
De quoi j'ai besoin ?
Ouais.
De l'amour autour de moi. Je déteste les histoires, les gens qui font des histoires pour tout. Les choses fondamentales, ce sont mes enfants. Hein, mes enfants, mes petits-enfants. Et mes amis les plus chers. Voilà, pour moi, c'est ça d'important, le reste. Le reste, ça... Non, non.
Et ça, tu sens que tu en prends conscience en vieillissant ou t'as toujours été comme ça ?
C'est bon, dans mon caractère, ça. J'ai besoin d'amour, moi, toujours. Et...
Tu crois pas qu'on est tous comme ça ?
Pardon ?
Tu crois pas qu'on est tous comme ça ?
Bah, il y en a beaucoup qui l'oublient. On est peut-être tous comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font passer l'argent avant tout, hein. Voilà. Il faut dire que j'en manque pas. J'en ai pas beaucoup, mais j'en manque pas. C'est ça. Peut-être que quand on n'en a pas, on pense peut-être trop à l'argent. Mais bon. Mais je suis pas exigeante non plus dans la vie, hein. Il y a des gens qui veulent toujours plus. Moi, non. Je suis contente de ce que j'ai. Voilà. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui sont contentes de ça aussi. Contentes de la vie qu'elles ont. Même si elle n'est pas merveilleuse. Parce qu'il y a tout un genre qui cherche toujours autre chose. Quelque chose de plus merveilleux, ils l'ont à côté de chez eux, ils ne le voient pas. Voilà. Ça, c'est ma philosophie à moi. Profitez de ce que vous avez. Appréciez-le, plutôt que d'aller chercher encore la lune. Voilà. Faites du bien autour de vous. Mais je ne supporte pas les gens qui veulent toujours nous changer, nous faire penser autrement. Je dis, moi, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent, mais qu'on ne vienne pas de me dire ce que je dois penser. Ça.
Et c'est quoi qui te donne envie de te lever le matin, qui donne du sens ?
Lever le matin ? Ben de vivre. De vivre le temps qui me reste. D'aller au café, boire mon café, de voir des gens.
T'as quel âge là aujourd'hui, Mado ?
Pardon ?
T'as quel âge aujourd'hui ?
Oh,
je... On peut pas le dire. Alors,
86 ans oui, et demi.
J'ai jamais presque compris, tu sais, ce truc où on n'a pas le droit de demander son âge à une dame.
Ah ben si, écoute, ben, tu rigoles. Ben, bien sûr, il faut demander l'âge à une dame.
86 et demi.
Et demi, oui, ben, oui, c'est demi. Alors tu vois, mais bientôt je vais dire 87 pour m'y habituer. Le 1er janvier, je dirais 87, comme ça, quand au mois de juillet, ben, je serai déjà habituée.
Mais t'as vu beaucoup de choses quand même. T'en as vu des transformations de la société.
Oui, et j'ai vu beaucoup de choses. Et puis les femmes, elles ont beaucoup lutté.
Hein? T'as participé un peu à ce
Bah bien sûr. Écoute, moi je remarque que j'ai jamais fait de grève dans mon métier parce qu'à l'époque, on faisait plus tellement de grève. Mmh. Parce qu'en 68, j'étais à faux.
Comment ça se fait que t'étais à faux? T'avais
parce que j'étais mon mari était en maladie à ce moment-là et j'étais avec mes enfants. Mes enfants sont. Enfin, Lydia est allée 2 ans à l'école à faux. Il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Donc, bah Muriel, elle a fait sa maternelle dans les rues de Faux. Hein.
Mais mai 68 à Faux, il n'a pas dû se passer grand-chose, si? Quand même?
Bah, non, pas grand-chose. Bah, j'écoutais beaucoup la radio. Hein. Je vivais 68 par la radio. Non, non, il ne s'est pas passé beaucoup de choses.
Tu penses que si tu avais été à Paris, tu aurais été dans les manifs?
Non, non, non. Pas pour 68. Ouais. Non, non, je ne serais pas allée. Non,
mais t'as pas fait partie du MLF et tout ça?
Non, ouais. Non, mais j'étais très... j'étais tout à fait pour, mais j'en faisais pas partie. Ouais. Et comment... en 68, si, un jour ici, on a vu les cartes de CRS qui ont envahi Faux, parce qu'ils cherchaient Cohn-Bendit à Faux. Oui, tu rigoles, c'est vrai. Ils cherchaient Cohn-Bendit à Faux, ils le cherchaient pas à Faux, ils le cherchaient... comment ça s'appelle, Lydia ?
Au Moulin de Vilsain.
Mais Cohn-Bendit n'était pas faux.
Et voilà. Pourquoi il aurait été au Moulin de Vilsain ?
Parce qu'il y avait un monsieur qui habitait là à l'époque et qui connaissait bien Cohn-Bendit et tout. Voilà. Et ils ont pensé que c'était réfugié à Faux. Et donc Cohn-Bendit avait passé la frontière allemande dans la voiture d'une jeune dame. Il était reparti en Allemagne. Voilà. Les histoires de 68, c'est là où j'ai vécu. Ouais.
Tout à l'heure, tu disais avant que je parte, avant que je meure, tu penses souvent à la mort?
C'est pas quelque chose qui m'effraie. Hein.
Pas plus que d'habitude parce que tu vieillis.
Pas du tout, non, pas du tout. Non, non, non. Je suis certainement moins effrayée de la mort que quand j'étais plus jeune. Non, non, tout à fait, tu sais, t'arrives au bout de ta vie, puis c'est tout. La seule chose qu'on dit, ne pas souffrir pour partir, puis c'est tout.
Ça serait quoi la plus belle mort pour toi?
Dans mon lit. Dans mon lit à moi.
En dormant?
Oui, en dormant, ou... Oui, en dormant, ça serait vraiment. Hein. Mon beau-père, lui, il est mort subitement au bras d'une dame. Il s'est affaissé, plaf. Voilà, ça c'était une belle mort.
Je pense que c'est une belle mort.
Ouais. Oui, oui.
Ça serait quoi ton souhait d'un enterrement qui te comblerait? T'aimerais qu'il
ressemble
à quoi?
Le souhait de mon enterrement?
Ouais, t'aimerais.
Alors là, j'ai un souhait que j'ai déjà donné déjà pour plusieurs fois. C'est que les amis viennent à mon enterrement et qu'ils aillent ensuite à l'auberge. Où ils viendront boire un bon verre de vin ou autre, à mon passage dans l'au-delà, s'il y en a, et puis faire la fête. Mais pas de tristesse.
Tu veux qu'on
Parce
danse?
Que j'ai une belle vie, oui, j'ai une très belle vie, et je suis très contente de ma vie. Et puis voilà, j'ai eu des enfants que j'adore et qui sont gentils avec moi, des petits-enfants adorables. J'ai de bons amis. Le reste, ça me suffit, moi. Voilà.
Tu dis l'au-delà, s'il existe, t'es pas croyante?
Ah, pas du tout. Alors, pas du tout.
Toi, tu penses qu'il va se passer quoi à ta mort?
Eh ben, que je vais être enterrée et que je vais rester, que tout va rester là-dedans et que voilà, c'est tout. Non, ben non, écoute, faut pas quand même se leurrer à ce point-là. Hein. J'ai dit que moi, les religions sont inventées pour faire tenir le peuple tranquille, les peuples tranquilles, hein, pour pas que prennent le dessus. Non, 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 et leur faire peur. Non, moi, c'est ça.
Et tu vas être enterrée à Faux?
Ah ben bien sûr, ma place m'attend, mon mari m'attend
là-bas.
T'as
déjà ton caveau.
Alors mon mari m'attend et je vais même plus le voir. parce que je dis qu'après, je serai pour l'éternité avec lui, comme ça. Voilà,
il s'appelait
tout.
Comment, ton mari?
Il s'appelait Joseph, c'était Joseph. Voilà, ouais, Joseph. Joseph et Marie-Madeleine. Madeleine-Marie, non, je m'appelle Madeleine-Marie.
Oui.
Non,
oui, on n'a pas fait de petit Jésus. C'est vrai que t'es une Marie-Madeleine.
Madeleine-Marie.
Madeleine-Marie. C'est pas rien, quand même.
Mais non, c'est pas rien. Hein. Ben écoute, notre premier enfant, ça n'a pas été Joseph, ça a été... ça a été Lydia.
Lydia, t'as échappé, peut-être que tu t'appelais Jésus.
Rencontre, affiliation, un peu. C'est déjà très bon, rapport.
Voilà, ma belle, les histoires de fou.
Merci, Nado. Hein. Merci.
Les histoires de ma vie tout à fait ordinaire, mais heureuse. Et je crois que c'est un peu mon mari qui m'a appris à être positive comme ça. Je l'étais toujours, j'avais toujours une... Mais c'était mon mari qui me disait toujours, regarde les bonnes choses de la vie, voilà.
Est-ce que t'as encore un truc à dire?
Oh, non, je ne rien dire. Tu sais, si j'avais bu un verre de rosé, j'aurais eu beaucoup plus.
À l'heure où Nicolas est en train de mixer cet épisode, Mado nous a quittés pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Une mort qui lui ressemble, pendant les feux d'artifice, elle est allée rejoindre Joseph. Je suis heureuse d'avoir pu lui dire au revoir et qu'elle ait pu écouter ce podcast avant sa mort. Quand je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle m'a dit « Ah mais je me reconnais pas, pas du tout, c'est pas moi, c'est tout en surface alors que la vie, ma vie est pleine de ravins ». Je lui ai demandé si elle était quand même d'accord pour le diffuser et elle m'a dit « C'est toi qui décides ». Moi, je trouve que ça lui ressemble à Mado. Je l'ai toujours vu enthousiaste, avec le sourire, à toujours vouloir voir le verre à moitié plein, à rester résolument optimiste et décider à aimer la vie coûte que coûte. À sa sépulture hier, nous étions nombreux et nombreuses. Des gens de son âge, bien sûr, mais aussi beaucoup de jeunes. Toutes les générations autour d'elle. Mado, elle était de celles qui savaient rassembler, qui savaient réunir. Et en nous regardant tous et toutes, je me disais qu'elle allait vivre encore longtemps, blottie dans le cœur de tous ces gens. Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural, un podcast totalement autoproduit. Un grand merci à Julien Padovani qui continue à créer et à offrir généreusement ses sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly qui donne de son précieux temps à chaque fois pour le mixage aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour ses conseils et son héritage. Et à Victoire Toyon, ils m'inspirent tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur podcast « Cerno, l'anti-enquête » et « Les couilles et le cœur sur la table ». Si tu aimes Hyper Rural, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu n'y habites pas encore, retourne vivre à la campagne.